Bonjour pour ce 7e numéro de Confinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone mardi dernier Christophe Véron, directeur général de l'Association régionale pour l'Institut de formation en travail social. Christophe Véron nous fait part de l'engagement et de l'adaptation du fonctionnement de l'ARIFT pendant la période de confinement.
On a été sollicité dès le 11 mars par une association angevine qui s'appelle Marie Durand, qui anticipait sur les conséquences d'un possible confinement et sur les besoins personnels qui pouvaient se faire sentir assez rapidement, à la fois confinement et en termes d'arrêt maladie. Et donc, on s'est rencontrés dès le 11, et puis ça nous a évidemment posé question sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour cet organisme-là, mais aussi pour d'autres établissements et services du secteur médico-social. Donc, à partir du 13, on a mis en place une adresse spécifique qui permet aux établissements et services du secteur de déposer des offres que nous, on met à disposition sur notre plateforme pédagogique interne, à disposition des personnes qui sont en formation à l'ARIFT. Donc à peu près sur les deux sites formation initiale, hein, à peu près 1200 personnes potentiellement, en sachant qu'il y en a qui sont toujours en stage, hein, qui sont restés en stage dans l'établissement et étaient en stage, qu'un certain nombre ne sont plus en stage puisque les stages ont pu s'arrêter pour différentes raisons, hein, soit parce qu'ils ont renvoyé les stagiaires chez eux pour limiter des risques de contagion, soit parce que les établissements ont eux-mêmes arrêté leur activité et du coup les stages se sont arrêtés. Donc, on a mis en place ce dispositif-là et on a communiqué à la fois par mail à nos intervenants, mais aussi via Nexem, qui est le syndicat principal des employeurs du secteur professionnel, et puis via l'URIOPS, qui est aussi une organisation professionnelle. Donc, voilà ce qu'on a pu mettre en place, en sachant qu'on a des demandes de tout type d'établissement, mais on n'est pas submergé, puisqu'à ce jour, sur la plateforme, on a 19 structures qui nous ont transmis des offres. Alors, c'est pas 19 personnes, puisqu'il y en a où il y a des offres pour plusieurs types de postes et de personnes. Mais pour le moment, on n'est pas submergé par les demandes, mais aussi parce que d'autres dispositifs ont pu se mettre en place en parallèle.
L'ARIFT propose une palette large de formations. Est-ce que là, c'est adressé à tous les étudiantes et les étudiantes, même si c'est un petit peu en dehors de leur formation initiale, ou c'est plus ciblé?
C'est majoritairement plus ciblé, mais on peut quand même avoir des choses très larges. Je suis sur la plateforme en ce moment, donc ça va de postes plus éducatifs qui correspondent tout à fait au profil de nos personnes en formation, mais on a aussi des postes qui peuvent concerner des postes de services généraux, de restauration de cantine. On relaye aussi un appel qui est plutôt sur une dimension bénévolat, sur de l'aide alimentaire. Maîtresse de maison, surveillant de nuit, donc il y a un peu tout. Nous, on met à disposition, donc pour un certain nombre, puisque maîtresse de maison, par exemple, surveillant de nuit, c'est aussi des formations que l'on fait. Ça va être des professionnels qui vont être directement en lien avec leur formation, mais parfois, ça peut être des propositions qui sont un peu décalées par rapport à la formation, mais où, a priori, le niveau de compétence permet de répondre à des besoins quand même.
Et là, jusqu'à présent, quelles sont les structures qui ont fait appel à vous?
Alors, Foyer de l'enfance de Vendée, une MEX aux Herbiers, l'association SEL Village d'enfants pour plusieurs structures, les apprentis d'Auteuil, le SIAO 44 qui gère plutôt les dispositifs d'urgence, à l'AMI sur le Maine-et-Loire, un EPMS à Chaland, un EHPAD, une association de protection de l'enfance de Sartre qui s'appelle Acadéa, l'ADAPEI 44, l'association Hippolaïs et l'association Marie Durand à peu près, et l'ARPEJ 49. Donc des structures à la fois dans le champ de la protection de l'enfance, principalement quand même, mais aussi des structures dans le champ de l'urgence ou du handicap.
Ils vous adressent une fiche de poste?
Oui, en gros, c'est ça. Ils nous adressent par mail leurs besoins.
Oui, mais il y a une différence entre les besoins et une fiche de poste.
Oui, alors après, nous, en fait, on les rappelle pour préciser avec eux le type de besoins qu'ils ont. Et donc, on met à disposition, hein, on a des éléments un peu normalisés là, en termes de nombre de la structure, le type de renfort attendu, le nombre de personnes, les profils attendus. les statuts proposés, les personnes à contacter. Donc, on a une fiche qu'on leur, un support de fiche standard qu'on leur demande de compléter.
Et au niveau des offres, il y a à la fois des contrats à durée déterminée et des demandes de bénévolat?
Alors, nous, là, ce qu'on préconise, c'est qu'on soit dans le cadre de CDD, mais parfois, les statuts des personnes en formation font qu'ils ne peuvent pas travailler, puisque ça pourrait avoir des incidences sur leur situation actuelle. On a notamment des gens qui sont financés dans le cadre de Pôle emploi, et donc qui eux-mêmes se voient avec les terrains pour être plutôt dans le cadre d'une convention de bénévolat ou de volontariat. De même que sur la demande sur l'aide alimentaire, je pense qu'on est plutôt sur une demande de volontariat. Et du coup, là, ça se croise un peu avec l'appel à mobilisation citoyenne. S'il y a des appels qui se croisent un peu entre la Direction générale de la cohésion sociale, on est plutôt sur un appel à la mobilisation étudiante. Et un autre appel plutôt issu du ministère de Jeunesse et Sport, qui lui est plutôt sur une dimension de réserve citoyenne, qui est beaucoup plus large et qui est plutôt sur une dimension de bénévolat ou de volontariat. En fait, il y a différents dispositifs, hein, puisque au niveau de la santé actuellement, il existe une réserve sanitaire. C'est un système qui est très très organisé, avec dispositifs soit de positionnement, soit de mise à disposition de salariés, mais plutôt du côté des établissements de soins. Ça n'existe pas encore tout à fait. Il y a la même chose pour la mobilisation des étudiants en santé, quelque chose qui est aussi très organisé. Sur la dimension de réserve sociale, ça se construit un peu au fur et à mesure des besoins, puisque on ne connaissait pas ça préalablement. Donc, il y a différents niveaux, hein. Il y a l'appel plutôt un appel citoyen sur quatre types de missions. C'est une plateforme qui a été mise en place par Éducation nationale et de la jeunesse. Et là, on est sur une plateforme qui s'appelle Je veux aider, réserve civique COVID-19. Donc là, on est sur des missions de bénévolat, où il y a quatre types de missions, aide alimentaire et aide d'urgence, garde d'exceptionnel d'enfants, lien avec les personnes fragiles isolées et solidarité de proximité. Donc ça, c'est un appel qui est fait à l'ensemble des citoyens, hein, plutôt sur une dimension bénévole. Et puis après, il y a ce qui est en train de tenter de se construire sur la réserve sociale qui, pour le moment, mobilise plutôt les étudiants, où là, on est dans un cadre plutôt soit de continuité de stage qui existe déjà, soit de contrat à durée déterminée, puisqu'il s'agit bien de faire appel à des gens qui ont une qualification et pour lesquels ils sont recrutés dans le cadre d'un contrat de travail. Et puis sur les derniers éléments que j'ai vus, il semblerait que commence à s'organiser les prémices d'une réserve sociale telle qu'elle existe dans le sanitaire, donc là plutôt pour des professionnels qui pourraient se rendre disponibles sur des missions. C'est par exemple le cas chez nous de formateurs qui sont quasiment tous de formation initiale travailleurs sociaux, et qui pourrait à un moment donné pouvoir être sollicité pour participer à une réserve sociale telle qu'elle existe dans le sanitaire.
Est-ce que ça va remplacer le stage?
Remplacer, non. Après, je dis, il y a différentes possibilités. Soit il y a des stages qui se sont arrêtés, soit pour des raisons. Il y a certaines structures qui n'ont pas souhaité garder leurs stagiaires pour limiter les risques de contagion. Il y a d'autres structures qui sont fermées. Et puis après, il y a aussi des étudiants qui sont en stage dans des structures qui sont ouvertes, et où là, dans le cadre des conventions existantes, on a pu proposer des prolongations de stage ou des modifications de date qui leur permettent de rester disponible pour les terrains dans ce cadre-là. Après, pour tout ce qui va être expérience dans le cadre de CDD ou convention de bénévolat et de volontariat, aujourd'hui, on n'a pas de cadre réglementaire, mais en tout cas, l'idée, c'est de valoriser ces expériences-là pour qu'elles soient prises en compte dans les parcours de formation, bien évidemment. Après, on est sur des formations où il y a beaucoup de stages, donc ça remplacera pas, mais ça pourrait remplacer des semaines qui n'auraient pas pu être réalisées et qui permettent aux étudiants en fin de parcours d'avoir l'ensemble de leur parcours de stage. En tout cas, il s'agit bien de pouvoir valoriser cette expérience-là, même si aujourd'hui on a un certain nombre d'étudiants, et c'est tout à fait légitime, qui sont un peu inquiets des conditions de travail qu'on peut rencontrer sur les terrains professionnels en termes de protection des salariés, et qui sont un peu angoissés à l'idée d'être en exercice sur des terrains où, comme on peut le rencontrer dans le cadre de la santé, mais peut-être encore pire, on n'a plus de masque, pas de gel, pas de blouse, etc., etc.
Et vous fixez les conditions aux structures qui font appel à vous pour établir le lien avec les étudiants, les étudiantes?
Non, nous, on a refusé de faire des nouvelles conventions de stage. On n'est que dans le cadre de conventions de stage existantes, mais en disant qu'on ne pouvait pas vérifier le cadre de stage dans le cadre de nouvelles conventions, puisque quand des terrains font appel à nous, C'est parce qu'ils ont besoin d'un service de professionnel et qu'il n'y a pas de temps à mobiliser sur la question de l'accompagnement des stagiaires, bien évidemment. En revanche, après, c'est dans le cadre d'un CDD, hein, donc c'est les deux parties qui s'engagent mutuellement, et voilà, en vérifiant autant que possible les conditions de la réalisation de ce CDD, mais nous, on ne filtre pas ni dans un sens ni dans un autre.
Et pour les stages qui sont en cours ou prolongés, les étudiants et les étudiantes ont la possibilité d'exercer leur droit de retrait.
Alors, c'est un peu plus compliqué que le droit de retrait, mais en tout cas, nous, on a demandé à ce que tous les stages qui se prolongent ou perdurent, on a fait un nouvel avenant à la convention spécifique pour cette période-là, où on rappelle bien que la personne est en accord avec le fait d'être en stage pendant cette période particulière. On a mis en place un document plus administratif qui va être resigné par l'ensemble des trois parties, qui confirme bien que on a reçu l'assentiment de la personne en formation pour rester en stage.
Vous vous adaptez, y compris au niveau des conventions de stage et des contrats.
On est effectivement sur de l'adaptation permanente. Là, on a créé des nouveaux avenants en convention pour couvrir la période. Voilà, l'idée, c'est de réussir à mobiliser au maximum les personnes qu'on peut accueillir en formation, mais que ça soit pas totalement hors cadre, à la fois pour elles et pour les terrains. Voilà, avec toutes les limites de notre secteur aujourd'hui sur les conditions d'accueil à la fois des publics, mais aussi des professionnels dans les établissements. Le secteur médico-social, bon, a priori au niveau de l'ARS, ils organisent aussi des choses, mais il y a un certain nombre d'établissements dans le secteur médico-social qui ont à la fois des établissements pour enfants, adolescents, qui ont pu fermer, et ce qui leur permet de mobiliser un certain nombre de ces professionnels pour aller dans les établissements qui ont des internats et donc qui ne peuvent pas fermer. Donc a priori au niveau du médico-social, les besoins sont pour le moment un peu moins importants. Mais du côté de la protection de l'enfance, c'est nettement plus compliqué, puisque entre le fait d'avoir des enfants, notamment dans les maisons d'enfants à caractère social, qui habituellement sont toute la journée à l'école, et là, les structures les ont 24 heures sur 24. Donc nécessairement, ça demande des moyens supplémentaires. Et puis, avec les personnels qui sont en arrêt pour garde d'enfants, ou qui sont en arrêt pour des raisons de maladie, il y a évidemment des besoins à couvrir, qui ne peuvent pas être couverts en interne puisqu'il n'y a pas de personnel à disposition libéré par d'autres structures.
Combien d'étudiants et étudiantes se sont inscrits?
En fait, c'est les terrains, donc je ne sais pas combien de. A priori, les terrains nous disent qu'ils ont plutôt des réponses à leurs sollicitations. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, puisque la démarche, c'est que l'étudiant, il postule à l'offre d'emploi, en fait. Et puis, je n'ai pas le fichier là, ouvert et suffisamment précis pour pouvoir vous dire combien ont postulé réellement. Je sais que c'est beaucoup consulté. Et que, a priori, la plupart des terrains qui nous font des propositions trouvent des candidats. Hein. Pour nous, il faut encore qu'on travaille sur le suivi, puisque sur les 19 offres qu'on a, on n'a pas nécessairement toujours les retours des terrains pour nous dire s'ils ont réussi à recruter ou pas. Voilà. On apprend le job de mise en relation terrain personne. C'est pas notre métier d'origine. Donc, il faut qu'on progresse encore dans le suivi des offres et dans savoir si elles ont été pourvues et dans quelles conditions.
Parce que je me disais qu'a priori, les étudiants sont plutôt motivés pour donc postuler à ces postes dans ces circonstances particulières.
Bah écoutez, a priori sur les retours qu'on a, on a plutôt des retours positifs, mais je vous dis, bon, à la fois on n'a pas les mêmes profils d'étudiants quand on a des étudiants qui sont en première année et qui ont 6 mois de formation avec pour certains un stage de 8 semaines, et puis d'autres qui sont en fin de formation, en fin de parcours, qui ont fait pour la plupart entre quasiment 50 et 60 semaines de stage et qui sont évidemment en fin de formation, donc mieux formés, mais qui sont aussi dans des questions autour de leur diplôme, hein, puisqu'il y a les diplômes qui arrivent au mois de juin. Et pour le moment, on n'a aucun élément sur un report de ces dates de diplôme-là. Donc on a aussi des étudiants qui disent moi j'irai bien, mais il faut aussi que je pense à mon diplôme. Et donc on est parfois un peu pris entre ce qu'on nous demande en termes de continuité pédagogique et de préparation, et puis l'urgence de la situation qui ne va faire qu'en s'aggravant.
Au niveau des cours, comment ça se passe?
Donc nous, les deux sites sont fermés, hein, donc il n'y a aucun cours sur place. Et après, on met en place des dispositifs, tout ce qui va être en termes d'accompagnement individuel et de suivi des situations. Et puis soit on est sur des dispositifs de classe virtuelle, donc plutôt avec des petits groupes dans les dispositifs qu'on a, soit en termes de mise à disposition et de commandes de travail. Voilà, donc on développe progressivement ce qu'on appelle la formation ouverte et à distance, même si on était aux prémices, nous, encore jusqu'à présent. Donc là, ça nous amène à accélérer un peu, mais on n'est de toute façon pas sur une correspondance identique. Voilà, s'ils avaient 35 heures par semaine de cours en présentiel, On n'est pas aujourd'hui à pouvoir dispenser ces 35 heures en formation ouverte à distance. Donc il peut y avoir des commandes de travail. Et puis on est aussi dans cette dimension où on leur demande à la fois de continuer leur formation et puis d'être potentiellement mobilisables sur des terrains. Donc il y a une grande souplesse sur les exigences en termes de formation.
Il y a des critères figés ou bien définis en termes de discipline, d'heures dispensées pour valider un diplôme.
Ah oui, on a
Il n'y a pas de dérogation possible.
Alors pour le moment, on ne sait pas encore comment ça va se passer, parce que chaque diplôme, c'est des diplômes d'État, hein, donc chaque diplôme a un volume horaire qui est défini réglementairement, et pour que l'on puisse présenter à la fois en termes de stage et en termes de temps au centre de formation. Et actuellement, pour que nous, on puisse présenter, puisque c'est le centre de formation qui présente les candidats au diplôme d'État, il faut que le candidat ait réalisé l'ensemble de son parcours de formation. On est sur des formations en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Pour les formations en 1 an ou les dernières années, il va falloir qu'on ait des dérogations pour qu'ils puissent aller présenter leur examen, même s'ils n'ont pas reçu l'ensemble des cours, hein, même si on essaie de compenser le mieux possible en termes de formation ouverte à distance. Et puis pour ceux qui sont en première et deuxième année, il nous reste un peu de temps pour réaménager les périodes de formation et qu'ils puissent avoir l'ensemble des cours d'ici la fin de leur parcours, hein, à la fois sur les étudiants qui sont en passage de diplôme, hein, sur la session 2020. Il n'y avait plus beaucoup de semaines de cours à venir, là, puisque en gros, la formation finit fin mars, début avril.
Donc ce sera simplement les examens qui poseront un petit problème.
Voilà, ça va être les examens finaux où il y a un certain nombre de dossiers à déposer dans les semaines qui viennent. Et là, aujourd'hui, on n'a pas du tout d'informations au niveau national sur un report de ces échéances-là en termes de dépôt, de date d'examen, etc., etc. Ce qui peut un peu compliquer la mobilisation de ces étudiants-là qui, pour le moment, restent sur les échéances telles qu'ils les avaient connues avant le confinement.
Comment vivez-vous professionnellement ce moment?
C'est évidemment compliqué. On est tous en télétravail. On est un certain nombre à pouvoir être habitués à travailler chez nous, hein, notamment un certain nombre de postes de direction ou de formateurs qui travaillent régulièrement chez nous. Donc, on peut avoir un espace à domicile prévu pour le faire. Et puis, on a tout un tas de salariés. Donc, à l'arrivée, actuellement, on a plusieurs situations. On a des gens pour lesquels on n'a pas pu faire perdurer l'activité. C'est notamment tout ce qui va concerner les services généraux. Donc, on est sur des situations, soit des gens qui ont pris des congés, soit en chômage partiel, puis services administratifs et pédagogiques et les équipes de direction plutôt en télétravail. Voilà, on mesure que ça peut être compliqué d'organiser le télétravail quand on n'a pas d'espace chez soi pour l'organiser, qu'on se retrouve à trois dans la même maison en télétravail, quand on a des enfants à gérer, etc. Donc, moi, je suis plus inquiet sur les effets psychologiques de la crise qu'on est en train de traverser sur un certain nombre de salariés. Et puis sur les étudiants aussi, c'est pas simple. Donc nous, on doit à la fois gérer la continuité des parcours des personnes en formation. Et puis aussi, ben, on est une entreprise, hein, puisque l'ARIF, c'est 130 salariés. Donc il faut essayer d'assurer le mieux possible la continuité de l'activité des salariés dans les meilleures conditions possibles. Donc nos informaticiens se sont beaucoup battus ces derniers jours pour donner les accès au réseau, etc., etc., etc. On travaille pas moins quand on est en télétravail. En tout cas, les journées sont même plutôt plus longues pour le moment.
Mais il n'y aura pas de conséquences financières
Aussi.
aussi?
Si, 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 il y en aura. Alors, nous, on a deux modalités de financement. Hein. Soit pour à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est une subvention région. Donc, a priori, la région s'est engagée à ce que, sinon, on peut assurer la continuité pédagogique, qu'il n'y ait pas d'incidence sur notre subvention. Et après, on a toute une activité qui est plutôt sur de la formation continue, donc pour des salariés déjà en poste. Et là, il y a un certain nombre d'activités qui se sont annulées. Alors, peut-être certaines vont pouvoir être reportées, mais on a un certain nombre d'activités que l'on va perdre. Donc si, économiquement, ça va être évidemment comme toute entreprise une période sans rentrée d'argent. Donc si, la reprise, et l'année 2020 va être compliquée et la reprise va être compliquée également.
Merci à Christophe Véron, directeur général de l'Association régionale pour l'Institut de formation en travail social, pour sa libre participation à ce 7e numéro de Confinez-vous à nous.
Voilà, je pense qu'on a essayé d'informer le plus largement possible les établissements et services de notre secteur. Donc, a priori, la plupart sont au courant de l'offre qu'on fait, hein. Ils s'en saisissent ou pas s'ils ont besoin. Mais si ça permet à quelques autres établissements d'en être informés, c'est l'essentiel.